France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 8h. Le dossier était bloqué depuis des mois. La Chambre américaine des représentants a adopté hier soir un énorme plan d'aide à l'Ukraine, mais aussi à Israël et à Taïwan. Et puis une date clé dans l'histoire de notre République. Il y a 80 ans, le 21 avril 1944, les Françaises obtenaient le droit de voter et d'être élues. 95 milliards de dollars dans les deux tiers destinés à l'Ukraine. C'est le gigantesque plan voté hier soir aux États-Unis par la Chambre des représentants. Cette enveloppe en faveur de Kiev était bloquée depuis des mois à cause notamment d'un groupe de républicains ultra-conservateurs. Finalement adoptée, elle pourrait être signée par Joe Biden dans les prochains jours. À New York, Loïc Loury.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
311 voix pour, 112 contre, quelques drapeaux ukrainiens flottent dans l'hémicycle après l'adoption de ce plan de soutien en faveur de l'Ukraine. Hakeem Jeffries, le chef de file des démocrates, avait pris la parole avant le vote. Il est temps de choisir entre la démocratie et la dictature, entre la liberté et la tyrannie. Il faut choisir entre l'Ukraine et la Russie. En face, une poignée d'ultra-conservateurs bloquaient ce texte depuis des mois, l'élu trumpiste Marjorie Taylor Greene notamment. Les Américains souffrent au quotidien, ils ne peuvent plus se nourrir ou acheter de l'essence. Mais la chose la plus importante, aujourd'hui, ce serait de dépenser 61 milliards de plus dans une guerre en Ukraine. Mais le soutien partagé par une majorité d'élus à l'égard de Kiev a finalement prévalu avec le vote de cette enveloppe de 61 milliards de dollars qui pourrait arriver au Sénat mardi prochain. Une aide cruciale au rendez-vous de l'histoire, a immédiatement commenté Joe Biden, prêt à signer ce texte dès qu'il sera sur son bureau. Les États-Unis, premier contributeur à l'effort de guerre ukrainien, avaient débloqué jusque-là près de 75 milliards de dollars pour leur allié.
Les élus de la Chambre ont aussi adopté des aides pour Taïwan ainsi qu'une mesure prévoyant la possible interdiction du réseau social chinois TikTok aux États-Unis. Et puis, autre enveloppe votée par le Congrès américain, 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël en pleine offensive contre le Hamas, mais aussi engagé dans un bras de fer avec l'Iran, soutien du mouvement palestinien. Ces 13 milliards serviront notamment à renforcer le fameux dôme de fer, cet immense système de défense anti-aérien qui a prouvé son efficacité il y a une semaine quand l'Iran a lancé plus de 300 missiles et drones sur l'État hébreu. En tout cas, une semaine, jour pour jour, après cette attaque, les Israéliens tentent d'oublier, comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux Omar Waman et Eric Audra.
Il y a un air d'été sur cette plage de Tel Aviv où à première vue, tout semble normal. Mais à première vue seulement, Lian, 17 ans, a passé la matinée sur sa planche de surf.
C'est la première fois qu'on revient surfer depuis l'attaque iranienne. Nous, on voulait revenir avant, mais nos parents nous l'avaient interdit car ils avaient peur que des missiles tombent sur la mer. Là, maintenant, on est dans une semi-routine.
Une insouciance de façade et une angoisse que Yerden, 29 ans, tente de calmer en jouant au volleyball.
On doit vivre, aller au travail, s'amuser avec les amis. Si on s'arrête de vivre et de s'amuser, ils auront gagné. On s'est habitué aux roquettes tirées depuis Gaza et j'espère simplement qu'on ne va pas s'habituer aux missiles lancés depuis l'Iran.
L'attaque iranienne sans précédent est dans toutes les têtes. Mikael, le visage ruisselant et déformé par l'effort à chaque coup de raquette.
C'est comme une thérapie. On vient tous les samedis, du matin jusqu'au soir. On a le soleil, le ciel est bleu. En fait, on a juste besoin d'un peu de paix. Mais on n'oublie pas ce qu'on traverse. Pas une seule seconde.
Impossible pour les Israéliens, pourtant habitués à la guerre, d'oublier cette attaque iranienne. Il faudra du temps pour calmer les angoisses qu'elle a fait naître.
Le reportage de Mar Waman et Eric Audra à Tel Aviv. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, le 21 avril 1944, les femmes françaises obtenaient le droit de vote. Une ordonnance leur délivrait le droit d'élire, ce qu'elles pourront faire pour la première fois l'année suivante, le 29 avril 1945, lors des municipales, mais aussi le droit d'être élue, l'aboutissement de 150 ans de combat des suffragistes, des militantes, comme Colette Privat, décédée il y a 3 ans, membre du Parti communiste. Elle avait été la première femme élue conseillère régionale de la Seine-Maritime en 1967, deux fois députée et maire de Maromme de 1977 à 1998. En 1944, elle avait une vingtaine d'années. Il y a 10 ans, elle avait confié à France Bleu Normandie ses souvenirs de cette époque. Écoutez son témoignage.
Ça a été pour certaines une grande surprise, parce que c'était vraiment un événement qui marquait un tournant dans l'histoire de la société. Alors il y a eu toutes celles qui, comme nous, manifestaient leur enthousiasme, des manifestations, des défilés, etc. Et puis il y a eu des forces rétrogrades, réactionnaires, qui ont senti le danger de la chose et le vent mauvais qui allait souffler sur la société française. Bon, bien sûr qu'il y a eu des réticences et puis des votes contre. L'idée que les femmes étaient forcément par nature réactionnaires, donc leur donner le droit de vote, c'était donner des forces nouvelles aux forces hostiles au socialisme. Mais c'est pas cette tendance qui, heureusement, l'a emporté chez nous.
Et voilà le témoignage de Colette Privat, décédée il y a 3 ans, militante dans sa jeunesse pour le droit de vote des femmes obtenu il y a aujourd'hui 80 ans en France. Nous y reviendrons avec l'invité de notre journal de midi et demi, l'historienne Michèle Zancarini-Fournel. Laurent Wauquiez dans le collimateur des opposants socialistes et écologistes du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il demande la transparence après un article du journal Le Monde sur un déplacement professionnel du président de la région au Japon. Un voyage pour aider les entreprises de la région à se développer, explique l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, dont Laurent Wauquiez est le coprésident. Les écologistes du Conseil régional espèrent que la Cour des comptes diligentera un audit de cette agence, comme elle le proposait dans son rapport sur les comptes de la région en 2019. Le temps aujourd'hui nuageux avec des averses et même de la neige à l'est, ensoleillé à l'ouest et au sud. Les températures au meilleur de la journée, 10 à 14 degrés sur la moitié nord ainsi que du massif central aux Alpes, 15 à 20 du sud-ouest à la Méditerranée.